des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Et oui, c'est à nouveau Clotilde Sey pour vous présenter une nouvelle édition de l'émission Des livres plein les oreilles avec encore une fois beaucoup de titres à vous proposer et des nouveaux invités, deux nouvelles voix aujourd'hui, deux nouvelles voix féminines. On va ouvrir l'émission dans quelques secondes avec Siena Trigiani qui va nous parler d'un polar qui... Pas un polar, excusez-moi, je me trompe avec l'autre personne. Pardon Siena. Un jour, ils entendront mes silences de Marie-Josée Martin. Il y aura également en seconde partie une chronique de Yannick Olassa. Alors elle, c'est vraiment sa première participation aussi. Et elle va nous parler d'un polar qui vient de sortir de Johann Seymour, qui s'appelle Rinzen et l'homme perdu. Il y aura des chroniques, notamment une chronique qui sera consacrée à Gilles Archambault. Et puis, il y aura bien sûr des titres en rafale. Je vous présenterai l'invité de la semaine prochaine. Et nous aurons en première partie un invité dont je n'avais jamais rien lu. J'ai son livre à côté de moi, une grosse brique que j'ai dévorée jusqu'à hier soir, minuit. Je vais vous présenter Daniel Grenier, auteur de L'année la plus longue. Mais pour le moment, je me tourne tout de suite vers Siena Trigiani. Bonjour Siena.
Bonjour Clotilde, comment allez-vous?
Je vais très très bien, c'est un grand jour, hein. Ça fait longtemps qu'on en parle, vous et moi.
Oui, ça fait un bon bout.
Il faut dire que vous habitez assez loin, vous êtes d'où Siena?
Je viens de Hamilton en Ontario, c'est à peu près une heure de Toronto, je ne sais pas combien de kilomètres, je suis pas bonne en géographie, mais à peu près une heure de Toronto.
Et vous nous écoutez régulièrement? Vous écoutez cette émission?
Oui, chaque semaine.
Et qui vous donne des envies de lecture? Et je pense finalement que vous avez fait affaire avec le SQLA et que vous en recevez, c'est bien ça?
En fait, j'ai rempli le formulaire.
Oui.
J'attends toujours une attestation.
Attestation, bon.
J'ai accès à la bibliothèque d'INCA et ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi qui aime beaucoup la technologie, je peux les écouter sur mon cellulaire.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Siena, je peux me permettre de vous demander, vous êtes complètement non-voyante ou partiellement?
Je suis complètement non-voyante de naissance.
De naissance?
Oui.
D'accord. Et vous êtes donc une boulimique de livres audio.
Oui.
C'est pour ça que je vous disais, Siena, il faut participer.
Ah oui, ça me fait plaisir.
Alors parlez-nous, présentez-nous d'abord le livre dont vous voulez nous parler aujourd'hui.
Alors le livre s'appelle « Un jour, ils entendront mes silences ».
Oui.
Et c'est un livre d'une auteure montréalaise qui s'appelle Marie-Josée Martin. Mmh. Ce qui est intéressant, elle aussi, elle est traductrice et moi aussi, j'ai étudié en traduction.
OK. Donc,
elle est traductrice, réviseur, chroniqueuse et son roman « Un jour, ils entendront le silence ». C'est l'histoire de la petite Corinne.
Oui.
Et elle est lourdement handicapée, elle est atteinte de la paralysie cérébrale et elle n'arrive pas à s'exprimer. Enfin, elle ne peut pas parler, mais elle n'arrive presque pas à bouger.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle un peu le... Est-ce qu'elle vit le syndrome de l'enfermement?
Oui. Ce qui est vraiment difficile pour elle, c'est que... ses parents, sa famille ne comprend pas, je devrais dire, sa famille comprend très difficilement son handicap. Mm. Et il n'arrive pas, surtout le père, d'ailleurs, Raymond Larose, c'est le père de Corinne.
Oui,
et
oui.
Lui, il arrive très difficilement à comprendre son handicap et il arrive très difficilement à l'accepter.
À l'accepter et à communiquer avec cette jeune femme, c'est ça,
absolument.
Avec sa propre fille. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle elle est décédée pendant un temps. Hein. Ce sont les médecins qui la ramènent à la vie, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Et ils ne savaient pas si elle allait vivre. Et cette jeune femme, elle, malgré son handicap, elle est très intelligente. Est très intelligente, elle comprend tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'est intéressant de savoir de son point de vue.
De son point de vue à elle, oui.
Comment elle perçoit le comportement de son famille, de sa famille, de...
Alors justement, est-ce qu'elle en veut à ce père de ne pas comprendre son handicap? Est-ce qu'elle lui pardonne? Est-ce qu'elle...
Vers la fin, je ne veux pas dire à la fin, mais vers la fin, il lui confesse, il lui fait une confession, il lui dit « Je regrette de ne pas avoir... de ne pas avoir... » compris de ne pas avoir...
De ne pas avoir su accepter et comprendre exactement qui tu étais dans ta différence, quoi.
Absolument.
Mais est-ce qu'on la voit vieillir? Parce qu'au moment où commence, entre guillemets, l'action, parce que c'est un accident qui l'amène à ce handicap?
C'est un manque d'oxygène.
Un manque d'oxygène à la naissance.
À la naissance, oui.
D'accord. Donc, ça part vraiment de sa naissance à elle. Et on va jusqu'à quel âge à ce moment-là? On la suit pendant combien de temps, Corinne?
On la suit pendant, je dirais, 12-13 ans.
OK.
Et puis, vers la fin de l'histoire, sa petite sœur, Safia, c'est vraiment elle qui arrive très facilement à comprendre, à communiquer avec Corinne et à vraiment la comprendre à travers ses gestes, à travers ses yeux.
Et la maman là-dedans, la mère?
La mère, Magali, elle essaie de se concentrer sur le positif. Au début, on voit qu'elle avait des doutes par rapport à Corinne, par rapport à sa capacité de comprendre ce qui se passe autour d'elle, mais petit à petit, on voit qu'elle dit à Raymond, elle dit...
Raymond le père, hein, c'est ça.
Raymond le père, oui, c'est ça. Elle dit, écoute, il faut que tu acceptes Corinne telle qu'elle est,
bien sûr. Est-ce que j'avais lu quelque part, à un moment donné, quand le livre est sorti, une critique d'ailleurs qui n'était pas très gentille. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Bon, vous savez que moi, je ne suis pas ici pour faire des critiques, alors je ne me le permets pas. Mais j'avais lu, quelqu'un disait que la petite Corinne était présentée dans ce livre-là comme une espèce de phénomène de foire et que ça l'avait dérangée beaucoup.
Ça, oui, J'ai lu le même...
Oui, commentaire.
Le même commentaire, la même critique. Et moi, en lisant ce roman, je me suis dit, ben c'est vrai que ses parents ont eu de la difficulté à communiquer avec elle et donc ils parlaient devant elle comme si elle n'était pas là.
Oui. Oui, je vois bien un petit peu comment. Mais dites-moi, quand on la quitte sans nous donner... Parce qu'à un moment donné, ça prend une fin à ce livre-là, mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour Corinne?
Il y a de l'espoir et on voit vers le sixième chapitre, elle se fait opérer pour ajuster sa posture.
OK.
Et à l'hôpital... on lui montre une espèce de tableau de communication, le tableau BLISS, B-L-I-S-S.
Oui.
Et il s'agit d'un tableau qui permet à une personne non-verbale de communiquer en pointant le doigt vers les symboles
OK. Mais sauf qu'elle, elle ne voit pas? Ah ben si, elle voit, elle, c'est
oui,
vrai.
Oui, elle voit.
Mais oui, bien
donc,
sûr. Donc ça lui permet de faire avancer un petit peu sa communication, quoi,
oui,
si je vous comprends bien.
Au début, il y avait des doutes par rapport à sa capacité de communiquer en utilisant le tableau Bliss.
Mais finalement, elle y parvient et ça lui donne de l'espoir, quoi, si j'entends bien ce que vous nous dites.
Oui, ça lui donne de l'espoir et elle raconte une anecdote, justement, où Benoît était en train de faire... Benoît, c'est le frère.
D'accord.
Le frère aîné.
Oui.
Et elle avait raconté une anecdote où il était en train de faire ses devoirs.
Oui.
Et puis elle a renversé un verre de coca.
Oui.
Et il lui donne le tableau Bliss et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as à dire? Et puis elle arrive à dire, je suis désolée. Donc, ça lui fait avancer un petit peu.
Oui, mais enfin bon, l'enfermement, hein, il me semble que c'est un livre, quand on veut en savoir un petit peu plus sur ce syndrome et surtout ce que cela sous-tend, je pense que vous recommandez, hein, Sienna Trigiani,
oui,
que les personnes se procurent un jour, ils entendront mes silences, de Marie-Josée Martin.
Je vous rappelle que c'est disponible sur le site de l'INCA.
L'INCA.
Alors, biblio-inca.ca.
D'accord. Bon, ben écoutez, merci beaucoup, Sienna. Voilà, ça y est, vous avez cassé la glace.
Merci à vous.
Hein, c'était une première.
Oui.
Alors, continuez comme ça. Bonne lecture et puis on va se retrouver dans le courant de la saison.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Il y a des briques qui nous arrivent comme ça entre les mains et puis moi quand je tombe sur une grosse brique ça me fait parfois un petit peu peur parce que je manque d'un petit peu de temps pour lire ces gros livres-là. Alors ce livre que j'ai dans la main, eh bien c'est un petit peu l'effet que ça m'a fait. Ça s'appelle L'année la plus longue, c'est signé Daniel Grenier, mais dès l'instant que je l'ai ouvert, je ne l'ai plus refermé jusqu'à minuit. Hier soir.
C'est bien ça.
Bonjour Daniel Grenier.
Bonjour.
Je sais que je vous ai déjà un petit peu fait rougir tout à l'heure quand je vous ai dit tout le bien que je pensais de ce bouquin. Les gens qui nous écoutent, ils vont se dire elle les aime tous. Alors, je vais mettre quelque chose au clair tout de suite. C'est vrai que si je n'aimais pas un livre, je ne le dirais pas parce que je ne suis pas là pour ça.
D'accord.
Mais lorsque je dis à ce point-là que j'aime un bouquin, laissez-moi vous dire que c'est parce que je l'ai aimé. Daniel, j'ai retrouvé dans votre livre La grande époque de John Irving. J'ai retrouvé, vous savez, toute cette folie romanesque et tellement, tellement bien écrite de je sais pas, je pensais au monde selon Garp, tout ça, qui nous amène à chaque chapitre dans un monde, un milieu différent. C'est sûr que lui, c'est de la traduction, mais j'ai toujours trouvé que c'était pas trop mal traduit quand même. Et vous-même, vous êtes un spécialiste de la littérature américaine, donc...
Oui. D'ailleurs, John Irving... Le monde selon Garp est dans ma thèse, parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur la représentation du personnage d'écrivain dans les livres, dans les romans américains. Et Le monde selon Garp, vous vous en rappellerez, Garp est un romancier qui finit par se faire assassiner, je crois, par un...
Il faudrait que je le relise, parce qu'il lui arrive tellement de choses.
Parce que sa mère est une féministe, donc sa mère reçoit des menaces de mort. Bref, il finit par mourir après 3 ou 4 romans, mais c'est un livre que j'ai analysé dans ma tête. J'ai beaucoup lu John Irving, j'aime beaucoup son travail. C'est évidemment un honneur pour moi.
Alors acceptez-le comme tel. Alors Daniel Grenier, L'année la plus longue, c'est un livre qui s'est retrouvé en nomination, hein, je pense, vous avez été au prix du gouvernement,
Libraires, non? J'ai remporté le prix des collégiens.
C'est ça.
Le prix littéraire des collégiens en 2000, c'est l'édition 2016, je crois, et l'année dernière. Et j'ai été finaliste au prix des libraires. Dernièrement, au prix du gouverneur général.
Exactement. Ouais. Et pour cause. Mais bon, vous aviez à côté de vous des gens qui ne sont pas des deux de pique non plus non. En écriture. Je pense à Anaïs Barbeau-Lavalette, voilà. Je pense à Martine Delvaux, d'ailleurs, qu'on a reçu aussi.
Bon. Sur le prix des libraires et au prix du gouverneur général.
Les deux. Bon, alors vous aviez, mais ce n'est pas parce que vous êtes resté au pied du podium que vous déméritez, loin de là.
Ben non, je me dis aussi, j'avais Nicolas Dickner à côté de moi au prix des collégiens.
Mais oui,
c'est
incroyable.
Moi qui l'ai eu, donc
mais
c'est
oui.
parfait. C'est
non,
génial.
Non, mais écoutez,
mais
vraiment.
C'était une belle grosse année en littérature québécoise. Moi, j'ai eu la chance de le vivre un peu de l'intérieur, justement, avec ces nominations-là. C'était une belle année. Bon, c'est toujours des belles années parce qu'on a un beau renouveau en édition québécoise, mais entre autres avec La femme qui fuit.
Oui.
C'est une grosse année.
C'est une grosse année.
C'est l'année la
absolument.
Plus longue,
oui.
Pour le dire comme ça.
Alors, justement, parlons-en et avec vos mots. En page 25, un des détails qu'on doit connaître tout de suite à propos de la vie de Thomas Langlois, c'est celui-ci, il est né une année bissextile. Bon, ça, c'est le point de départ. Donc,
c'est le titre, en fait. L'année la plus longue,
exactement.
C'est l'année bissextile, l'année des 366 jours, l'année du 29 février, qui arrive une année sur quatre.
Une année sur quatre.
Selon les calculs mathématiques de grands scientifiques
poudrés
et perruqués.
Et alors, pour raconter l'histoire, sans la raconter, mais quand même, parce que tout ça est de toute façon au début du livre, son papa est donc convaincu que, à ce moment-là, on ne sait pas encore comme qui, mais son gamin, Thomas, ne va prendre en fait un an que tous les quatre ans.
On entre dans ce roman-là avec Thomas Langlois, qui est un jeune homme né le 29 février, et on rencontre assez rapidement son père, Albert, qui est obsédé par la date du 29 février.
Oui.
Et on finit par apprendre effectivement qu'il est obsédé par un ancêtre qui aurait existé dans sa lignée, mais qui n'est pas seulement un ancêtre, parce qu'il est un « leaper », de l'anglais leap year, c'est l'expression anglaise pour parler des années bissextiles. Je le dis en anglais parce que on peut le mentionner rapidement, c'est un livre américain et québécois. Hein. L'histoire se passe au Tennessee au départ, donc Albert est un Québécois qui a marié une Américaine et leur enfant c'est Thomas Langlois. Donc on finit par comprendre qu'il est obsédé par cet Aimé Bolduc qui serait à la fois son ancêtre et, selon ses calculs, comme il ne vieillit qu'une année sur quatre, il est un leaper original, il serait encore vivant, donc il serait aussi son contemporain. Il rêve, évidemment, son grand rêve, c'est que Thomas, son fils, qui par chance ou par peut-être par calcul un peu occulte, est né la bonne date dans l'année. Donc il rêve que son fils soit aussi un leaper, mais Thomas révèle être un garçon ordinaire, si on veut, une longévité, longévité
normal.
Ordinaire, normale comme la nôtre. Et c'est son histoire qu'on suit. Mm-hmm. Et dans la deuxième partie, on tombe dans les documents d'Albert. On rencontre Aimé Bolduc et on va le suivre comme ça à travers l'histoire de l'Amérique le long de la cordillère des Appalaches.
Voilà, exactement. Ouais. Où il marche assez régulièrement.
Voilà.
Il y en a des kilomètres et des kilomètres qui sont faits. Et là, vous nous amenez d'un chapitre à l'autre. Ça devient épique. Alors, parfois, c'est romanesque. Parfois, c'est fantastique. Tout d'un coup, on se ramasse dans la guerre de sécession. Tout d'un coup, on se ramasse dans la Première Guerre mondiale parce qu'il est fait tout, lui. Pour des raisons...
Il
a pas mal tout traversé. Il a vu passer la comète de Halley, je ne sais plus combien de fois.
Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Aimé n'est pas un vrai immortel. Hein.
Aimé est un
personnage qui vieillit lentement.
Donc, il vieillit lentement, c'est ça.
À une certaine époque, il se met à faire des dépressions aussi. Hein.
Oui.
À partir d'un certain âge,
là, quand il commence à avoir mal aux genoux.
Oui, voilà, j'ai été jeune pendant 200 ans. Est-ce que je vais être vieux pendant 500 ans maintenant? C'est moins drôle tout à coup.
Oui,
mais
tout
ça pour dire que oui, il a vécu la plupart des événements. Il se met à délirer sur son propre cas. À partir d'une certaine époque, à partir d'un certain âge, hein, et il refuse, il veut pas devenir cette personne-là qui se voit comme, par exemple, le fils de la comète.
Mm-hmm.
Il est obligé de se dire dans sa tête, OK, bon, j'ai vu, ça fait trois fois que je vois passer la comète de Halley, mais je dois me souvenir, c'est important pour ma santé d'esprit que je ne suis pas un être extraordinaire.
Non, c'est ça.
Et c'est un roman qui fonctionne beaucoup sur ce motif-là, sur l'idée que, malgré le fait qu'on raconte la vie de gens qui ont eu des destins hors du commun, ce sont quand même des humains, humains ordinaires. Donc Aimé, c'est un être très, très lâche hein, par moment dans sa vie, qui a abandonné beaucoup de gens. Évidemment, bon, avec un secret tel que
comme
sien,
celui-ci, c'est pas facile.
On est obligé d'abandonner des amours parfois, mais bon, il s'est pas toujours comporté, disons, avec la plus grande noblesse envers ses amis et ses compatriotes. Donc, bref, il se retrouve dans plusieurs situations qui sont à la fois un portrait de l'Amérique et un portrait intime, si on veut, des événements qui sont toujours un peu décalés par rapport à l'histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à prendre, justement, on parlait de la guerre de sécession tout à l'heure, de la Première Guerre mondiale. Comment parler, encore une fois, la déportation des Cherokees, la déportation des Amérindiens, comment parler de ces événements-là en les prenant d'un point de vue un petit peu décalé, un petit peu détourné. Et là, c'est le romancier qui se met au travail. Hein. Ce n'est pas un travail d'historien qui est déployé dans le livre. Je ne crois pas que ce soit le...
Non, mais les passionnés d'histoire, ils vont s'y retrouver.
Les grands lecteurs de romans historiques traditionnels, si on veut, n'y trouveront pas nécessairement leur compte parce que l'idée ici, c'est de tordre l'histoire pour me faire plaisir en tant qu'écrivain. Donc, on s'amuse à, par exemple, mettre des événements qui ont peu à voir ensemble. Par exemple, la déportation des Cherokees dont je parlais tout à l'heure, qui arrive en 1837-38. Et là, moi, en tant que romancier, je me rends compte que c'est la même année que les Patriotes. Ah, ben amusons-nous. Alors, à ce moment-là, c'est la grande histoire de l'Amérique mélangée avec notre histoire à nous, dont personne n'a entendu parler sur le continent américain, mais qui est tellement importante dans notre identité, la rébellion des Patriotes et tout ça. Donc, Aimé va se retrouver à un endroit précis où il va aller voler des fusils aux Amérindiens pour les envoyer à travers un espèce de réseau un peu secret de trafic d'armes vers la vallée du Richelieu où les Patriotes ont un grand besoin d'armes pour faire le...
Et puis, en même temps, tout d'un coup, il a des illuminations d'humaniste, comme par exemple quand il passe à côté de ce pauvre gardien, là, justement, là, quand il s'en va voler les fusils. Alors là, il y a le garde qui dort sur son grabat, puis là, il pense à lui, puis il dit, oh là là, lui, quand il va se réveiller,
l'imagine déjà en train de mourir dans une flaque de pisse quelque part à Savannah, en Géorgie,
Parce qu'il ne fallait pas qu'il s'endorme. Et c'est de sa faute.
Il y a beaucoup de passages comme ça, effectivement, où j'essaie de toujours ramener l'écriture le plus près possible de l'événement, pas banal, mais disons le plus précis possible à l'intérieur de la grande histoire, si on veut. Donc, on est beaucoup dans la tête des personnages, dans la psychologie banale, quotidienne.
Dans ce qu'ils rencontrent, comme par exemple dans ce chapitre fantastique où ils rencontrent Crane, l'auteur, qui lui passe une petite annonce et il veut rencontrer des vétérans. Ça va d'ailleurs donner lieu à un livre, dans la vie, bien sûr. Mais avant qu'il monte chez Crane, il y a tout un passage où... Il voit la rue autour de lui, il y a un mendiant, il y a un truc. Donc, alors, on est là, c'est vraiment... Ensuite, il y a cette bulle chez Crane, où d'abord l'autre, il lui dit, mais attends, t'es franchement trop jeune, là. Tu peux pas avoir été vétéran, bah, évidemment, parce que quand il a 30 ans, en fait, il en a 4 fois plus. Donc,
Aimé doit le convaincre. À ce moment-là, Aimé s'appelle William. Oui. William Van Ness doit convaincre Crane que la nature a été gentille avec lui. C'est parce que ça fait 40 ans que la guerre est terminée à ce moment-là, que la guerre civile, on s'entend. Ici, on a tout le moteur du livre, comment fonctionne le livre, si on veut le résumer un petit peu au-delà de ses thématiques. Il y a un travail d'écriture qui est fait sur... Moi, ce que j'appelle l'art du remix, l'art du clin d'œil, l'art de l'hommage. Et Stephen Crane est un écrivain réel, celui dont on parle depuis tout à l'heure. Stephen Crane a écrit en 1895-96, je ne me rappelle plus exactement, un roman qui s'appelle La conquête du courage, The Red Badge of Courage, qui est un grand classique du roman de guerre américain, considéré comme le premier roman de guerre moderne où le soldat est vu comme à la hauteur de ses compétences, de sa peur, de sa lâcheté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, en tant qu'écrivain, encore une fois, c'est de mettre en scène un personnage qui va devenir l'influence pour écrire son livre d'un auteur qui, moi, m'a énormément influencé et qui m'a permis d'écrire mon livre. C'est-à-dire que sans Stephen Crane, sans The Red Badge of Courage, sans ma lecture, sans mon amour de la littérature américaine, L'année la plus longue ne peut pas exister. Donc pourquoi ne pas justement faire rouler cette espèce de rouleau de la littérature, des influences, des amours, des passions. Et là, Aimé Bolduc, mon personnage, va rencontrer Crane et va lui donner les indices, la substance pour écrire ouais. La conquête du courage.
Ce livre qui vous a tellement marqué. Je vous dis, c'est pour ça que c'est brillant et pas à peu près. Moi, je me disais que quand on est écrivain, parce que c'est quand même une structure assez complexe, là. On est quasiment sur 300 ans. Hein. Ça commence dans les 1760
Aimé naît en 1760, tout de suite après la conquête. Là.
Bon, un 29 février, on le sait, ouais. Et on s'en va jusqu'en 2014. 47.
On s'en va jusque dans le futur, mais on ne dira pas exactement
non.
Pourquoi.
Parce
c'est pas avec Aimé qu'on s'en va dans le futur,
non.
C'est avec d'autres personnages.
Avec d'autres personnages,
ouais.
Voilà.
Donc c'est une structure qui est effectivement complexe, mais qui en même temps est assez accessible parce que, bon...
On comprend tout. Hein. Ah oui, alors là, moi, je voudrais rassurer le monde. Moi, je me suis jamais dit, oh là là, mon Dieu, qui c'est, lui? Non, jamais.
J'ai fait attention aussi, à bien mettre en scène. C'est-à-dire que, bon, encore une fois, je ne suis pas un romancier historique. Je n'ai pas envie de tout donner au lecteur, le genre d'information qui les fait se rendre sur place, exactement. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus les questions d'ambiance.
Oui.
Mais il reste les chapitres, même s'ils sont... les chapitres d'Aimé sont racontés de façon déchronologique. Hein. Ça, on ne l'a pas mentionné, c'est pour ça que ça a l'air... Il y a un aspect puzzle un peu, mais c'est important de se laisser transporter, si on veut, par le fait que lui-même est en train de vivre une vie impossible à raconter
bout à l'autre. Comme là, voyez-vous, en page 198, nous sommes en septembre 1863 à Saint-Henri, des Tanneries, parce qu'à l'époque, c'était bien...
C'était le village de Saint-Henri,
c'était un village, c'est ça. Et le chapitre d'après, nous sommes en juin 1980 à Pittsburgh.
Ouais.
Et etc., etc. Et je pourrais prendre chacun,
mais c'est parce que
ça fonctionne sur
l'idée du document trouvé. Hein, c'est-à-dire qu'on suit les recherches de ce fameux Albert dont on parlait au début. Albert Langlois est obsédé par cet ancêtre-là. Et au fond, toute la partie d'Aimé, la deuxième partie du roman, on va suivre un peu ses recherches. Mm. Donc évidemment, les documents trouvés par Albert ne sont pas nécessairement dans le bon ordre, dans l'ordre chronologique. Donc, on suit à la trace, tout en ayant toujours, en gardant toujours en tête que peut-être qu'il n'était pas exactement là à ce moment-là, parce que les gens vont rentrer dans le livre avec un prologue de 3 ou 4 pages qui met en scène Aimé à la déportation, durant la déportation des Cherokees en 1838. Et on finit le prologue en disant mais c'est impossible qu'il se trouve là à ce moment-là, parce que tous les documents ne concordent pas.
Exactement. Non, c'est une quête incroyable, la quête d'Albert, la vie d'Aimé, ce que va devenir Thomas, j'en dirai pas plus.
Parce qu'on revient avec Thomas, en troisième partie.
En troisième partie. Écoutez, ça s'appelle L'année la plus longue. Vous aurez compris qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures et des heures. C'est signé Daniel Grenier. C'est au Cartanier pour les gens qui voudraient l'offrir sur papier. Et c'est même sorti en livre de poche depuis
hier.
Voilà. Alors donc, et puis sinon, c'est évidemment en audio adapté au SQLA. Daniel Grenier, plaisir de faire votre connaissance. Et j'ai bien hâte de lire d'autres Daniel Grenier, moi. Je suis sûre que vous en avez dans vos tiroirs et qu'un jour, vous allez les sortir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Merci.
Des livres plein les oreilles, la suite. Et on va y aller tout de suite avec une chronique que vous connaissez bien, des nouvelles et des livres. La nouvelle, en fait, c'est un article. Plus que ça, c'est une rencontre, une autre rencontre, devrais-je dire, entre Daniel Lorrain et Gilles Archambault, parce que ce n'était pas la première et, espérons-le, ce ne sera pas non plus la dernière. C'est bien sûr pour le journal Le Devoir. Et je me suis dit que c'était un bon prétexte pour aller voir les livres de Gilles Archambault que nous avions de disponibles, soit via le SQLA, soit via le CAEB. Alors, elle dit, Madame Lorrain, dans Le Devoir, qu'une rencontre avec Gilles Archambault est tout sauf ennuyante, déprimante. Que de vie chez cet homme-là, que de pétillement dans son regard bleu. La vieillesse est un naufrage. C'est en citant le général de Gaulle que l'écrivain à la crinière blanche me reçoit dans son appartement montréalais du quartier McGill, écrit Daniel Lorrain. Gilles Archambault, 83 ans, se désole de traîner de la patte, résultat d'une crise d'arthrose. Une rencontre avec Gilles Archambault est tout sauf ennuyante. que de vie chez cet homme-là, donc. Et puis, sa lucidité, sa densité de réflexion, sa légendaire mélancolie qui berce sa vie autant que ses livres. « Nous sautons du coq à l'âne, dit-elle. Nous finirons par entrer dans le vif du sujet en laissant place à des apartés sur son expérience immense comme réalisateur, animateur et chroniqueur à la radio de Radio-Canada, à l'époque où Radio-Canada était encore Radio-Canada, de dire M. Archambault, sur sa longue collaboration comme critique littéraire dans les pages du Devoir. « Je suis entrée et sortie du journal 5 ou 6 fois pour toutes sortes de raisons », lui dit-il. « Ma première collaboration remonte à 1962. J'étais payée 10 dollars l'article. » Sur son amour pour Paris, lui qui note tous ses voyages dans un cahier. « Il y a des gens qui peuvent rire de moi, mais je suis allée à Paris 97 fois dans ma vie. » Et puis sur sa femme, Lise, avec qui il l'a vécu, 52 ans, qui est morte d'un cancer et à qui il a rendu hommage en 2011 dans son livre le plus bouleversant et peut-être son plus beau. « Qui de nous deux ?» J'ai commencé à vivre le jour où je l'ai rencontré, de dire M. Archambault. Je ne veux pas faire l'écrivain devant vous, mais pendant toute mon enfance et mon adolescence, je me sentais étranger au monde. Et puis, alors tout ça est ponctué de références à Stendhal, l'un de ses écrivains préférés, de citations littéraires empruntées ici et là. Non seulement Gilles Archambault note toutes ses lectures sur des feuilles volantes depuis l'âge de 17 ans, il consigne à part dans un cahier avec table des matières à la fin, s'il vous plaît, les citations qui l'ont marqué. Un homme d'ordre, Gilles Archambault, à l'image de son appartement où tout est bien arrangé à sa place, dont les milliers de disques de jazz accumulés au fil de sa carrière radiophonique. Étonnamment, cet auteur de 18 romans confie à Daniel Lorrain « Laissé en toute liberté, j'aime mieux la nouvelle que le roman. En réalité, ce ne sont pas des romans que je fais. Il n'y a pas d'intrigue. Il y a un seul personnage qui compte, qui est mon alter ego. Et les autres personnages étant des sortes de satellites. Il ne voit pas pourquoi un écrivain serait obligé de dire que le ciel est bleu. Il dit « C'est inutile de tout qualifier, je préfère laisser une place au lecteur, même s'il n'a jamais pensé à ses lecteurs en écrivant. J'avais un job à la radio, entendre qu'il n'a jamais eu besoin de plaire au plus grand nombre par ses écrits pour gagner sa vie. D'ailleurs, il n'a jamais souhaité devenir célèbre à la manière d'un Gaston Miron ou d'un Michel Tremblay. L'idéal pour lui, être tenu pour un écrivain, pour un happy few, mais être reconnu pour un écrivain qui a une certaine valeur intime. Alors l'intime, parlons-en, le couple, la famille, l'amitié, l'enfance, mais aussi les déchirements intérieurs, le mal-être existentiel et le fait de se sentir étranger au monde, les regrets, tout ça, il en a fait la matière de ses livres. Je voudrais vous préciser que si Daniel Lorrain est allé rencontrer Gilles Archambault, c'est lui, c'est parce qu'il y a un recueil de nouvelles qui vient de sortir, qui s'appelle « Combien de temps encore ?» Évidemment, ce recueil de nouvelles n'est pas encore disponible au SQLA, mais il y a tant d'autres livres, romans et recueils de nouvelles à lire de M. Archambault via le SQLA ou le CAEB. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. « Lorsque le cœur est sombre », ça c'est un roman. « Les maladresses du cœur », qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ?« L'obsédante obèse et autres agressions ». Il y a aussi « Un promeneur en novembre ». Et puis nous avons, via le SQLA, nous avons, ça a été enregistré chez Vues et Voix en 2012, « Qui de nous deux ?» ce livre qu'il a écrit pour sa femme avec qui il a vécu pendant 52 ans et dont il était question dans ce papier de Daniel Lorrain. Sinon, il y a aussi « Courir à sa perte »,« De l'autre côté du pont »,« Doux dément »,« Une enfance bleu-blanc-rouge » ou alors « Un homme plein d'enfance ». C'est un joli titre, ça. Alors voilà pour vous donner peut-être l'envie de vous replonger dans l'univers de Gilles Archambault. Si vous étiez là en première partie de cette émission, vous avez sans doute entendu l'entretien que j'ai eu avec Daniel Grenier, à qui l'on doit L'année la plus longue, ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il nous a parlé notamment de cette rencontre avec Stephen Crane, cet auteur à qui il voue une admiration immense, Daniel Grenier. Et là, il a mis en scène un de ses personnages principaux qui va à la rencontre de ce Crane-là. Et il fait dire à son personnage tout ce qui se retrouve dans le livre de Crane. Et là, vous allez vous dire, OK, c'est ça qu'elle va nous présenter. Eh bien non, je vais vous présenter ce qui précède le moment de leur rencontre et ce qui suit le moment de leur rencontre. Parce que la rencontre, il faut à tout prix que vous la lisiez par vous-même ou que vous l'écoutiez, bien sûr, c'est en version audio. Alors, nous sommes en juillet 1893 à Philadelphie. Aimé avait répondu par pneumatique à l'annonce discrète dans le Ledger et il s'est présenté à la porte du studio, au deuxième étage d'un immeuble en plein cœur de Southwark, avec ses souvenirs toujours aussi vifs, colorés comme des toiles criardes et anachroniques. Un enfant crevé de faim juste à côté de l'entrée principale quand il est monté. Assis sur les marches, la bouche ouverte et les yeux hagards, il ne quêtait rien. Il semblait attendre qu'on vienne le chercher pour l'emmener dans un endroit meilleur, où il pourrait rencontrer des animaux exotiques et sentir différentes épices. Aimé ne s'est pas arrêté pour le détailler autant que nous. Il est passé sans même le remarquer à peine. Il en avait vu d'autres, des pires, partout au pays, surtout dans les villes frontalières et dans les montagnes, à l'ouest du Piémont, où la suie des mines et de la dynamite s'accrochait au visage, creusait des rides et bouchait les voies respiratoires. Il avait déjà vu un enfant de 9 ans environ cracher une glaire noire en se raclant la gorge durant plusieurs secondes et lever des yeux défiants vers lui ensuite, comme pour dire « Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux ?» L'enfant sur les marches, lui, avait le visage propre et il tremblait des mains. Un petit chien brun somnolait à côté de lui. Ses oreilles se soulevaient au moindre bruit chaque fois que le garçon reniflait. Il ne lui a pas demandé son nom ni son âge. Il ne lui a pas lancé une pièce de monnaie, mais il a grimpé les marches de l'entrée deux par deux en tenant les revers de son veston. On pouvait voir la chaîne d'une montre de gousset et l'élégance se lisait dans ses gestes et dans le reste de ses vêtements. Malgré la hâte et la chaleur, son maintien était contagieux. Les murs de briques de l'immeuble, d'un orange foncé, semblaient plus droits quand il s'est glissé à l'intérieur. Quantité de fenêtres laissaient voir de la vie, laissait entendre des rires et des vêtements et des draps pendaient à des cordes au-dessus de la rue. Voilà pour le premier extrait que je voulais vous lire. Et là, il y a la rencontre avec Crane où le héros Aimé, qui a l'air d'avoir 30 ans, mais en fait, il en a 4 fois plus parce qu'il n'est fêté que tous les 29 février. Et il ne vieillit qu'à ce rythme-là aussi. Alors au début, lorsque M. Crane le rencontre, il lui dit « Mais vous ne pouvez pas être un vétéran d'une guerre d'il y a 40 ans ». Vous n'étiez même pas né. L'autre fait « Oh, que oui, j'étais né ». Et là donc, alors il se rencontre, il vit d'une bouteille de scotch, il fume je ne sais plus combien de cigares, et ensuite, Aimé redescend dans la rue. Et là, on retrouve le quartier qu'il avait laissé un petit peu plus tôt. Aucune lumière municipale n'éclairait le quartier, mais des gens se promenaient avec des lanternes à l'huile. Les flammes ballottaient et attiraient le regard comme des pendules. En s'avançant sur les quelques marches qui les séparaient de la terre battue, Aimé a entendu une série d'aboiements aigus et il a levé la tête pour la diriger vers le son. À une des fenêtres de l'immeuble, peut-être au 7e ou au 8e étage, un homme était penché. Il tenait un petit chien brun et le faisait tourner dans les airs en riant. Derrière lui, au milieu des aboiements et des gémissements de l'animal, on entendait aussi les pleurs d'un enfant. L'homme s'est tourné. Il a crié « Shut up !» vers l'intérieur. Dans un mouvement élégant, franc et sans aucune hésitation, il a lancé le chien dans le vide qui s'est mis à tournoyer sur lui-même très rapidement dans un silence soudain. Le petit chien a traversé l'espace au-dessus de la tête d'Aimé et est allé se frapper sur le mur de l'immeuble en face. Il a terminé sa chute au milieu de la chaussée avec un bruit sourd, atténué par la poussière et les roches soulevées dans l'air sec. L'homme a reculé à l'intérieur, riant encore, il a fermé les volets. Certaines lanternes étaient tournées vers le chien, d'autres vers la fenêtre d'où on n'entendait plus de pleurs ni rien. Une femme qui ramassait ses draps sur la corde avait un sourire d'épingle à linge dans la bouche, mais paraissait sous le choc immobile sur un balcon en hauteur. Aimé a cherché Crane dans les interstices des murs entre les éclats aveuglants des lanternes, sans succès. Quand je vous disais que ce livre est un livre important, et on n'a pas du tout parlé tantôt avec Daniel Grenier, l'auteur de ce livre, L'année la plus longue, de l'écriture de ce bouquin. Une écriture absolument fantastique, comme peut-être vous l'aurez compris, entre ces quelques lignes que je viens de vous lire. Je vous avais dit que nous avions deux nouvelles voix aujourd'hui. Alors, on avait la voix de Sienna Tridiani au tout début de l'émission. Eh bien là, nous allons faire connaissance avec Yannick Olassa. Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde.
Yannick, merci tellement d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler du livre dont vous avez envie de nous parler et que vous avez envie de nous partager aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous. Yannick, vous êtes une dévoreuse de livres, même que vous vous appelez comment? Il s'appelle comment votre blog?
Mon blog s'appelle Livresquement boulimique et je suis aussi connue comme étant la bouquineuse boulimique.
Alors, vous étiez une personne toute désignée pour venir nous parler de livres et je précise bien sûr aux personnes qui nous entendent qu'on prendra soin lorsque Yannick interviendra sur nos ondes de vérifier si le livre est bien disponible via le SQLA ou le Caleb pardon. Je voudrais aussi préciser vous ne sortez pas beaucoup de chez vous, hein, Yannick?
Surtout pas l'hiver.
Non, c'est ça. Vous êtes en situation de handicap également?
Oui, tout à fait. Je suis à mobilité réduite parce que je suis atteinte de sclérose en plaques depuis maintenant 12 ans.
12 ans. Alors aussi, peut-être que vous étiez une grande liseuse aussi, mais peut-être que ceci explique un peu cela. Est-ce que vous lisez encore plus depuis?
Oui, je lis encore plus parce que j'ai beaucoup de temps, mais en fait, j'ai toujours lu. Je suis un peu comme Obélix et la potion magique. Moi, l'amour des livres, je suis tombée dedans toute petite.
Alors Yannick, vous m'avez, lorsqu'on s'est parlé cette semaine, je vous ai dit, écoutez, dressez-moi une petite liste de livres dont vous avez envie de nous parler. Coup de chance, tous les titres que vous me donniez, ils sont tous disponibles en audio adapté. Et finalement, vous avez choisi vraiment une nouveauté. Ça fait pas très longtemps que c'est arrivé via le SQLA, je veux dire au SQLA, et c'est un polar. Parlez-nous de ça.
Oui, il s'agit de Rinzen et l'homme perdu de Joanne Seymour, qui a été publié en mai dernier, donc en mai 2016.
Okay.
Joanne Seymour a déjà publié 5 autres polars, dont Le cri du phare, qui a été adapté pour la télé, qui était la série Séquelles l'an dernier. Généralement, son héroïne, c'est Kate McDougall, qui est une enquêteuse très torturée. Mm-hmm. Donc, cette fois-ci, elle a fait complètement différent. Elle est allée vraiment dans un autre sentier avec Rinzen et l'homme perdu. C'est ce qu'elle appelle elle-même un slow polar psychologique.
Bon. Autrement dit, on n'est pas dans les poursuites trépidantes et tout ça, là.
Non. Bon. Non, il y a de l'intrigue, bien sûr, c'est un polar, mais c'est beaucoup plus axé sur la psychologie des personnages et c'est vraiment très intéressant.
Alors, quels sont-ils, ces personnages-là, alors?
Nous avons Rinzen Jiatsuo, qui est l'enquêteuse à la police de Montréal. Elle vit avec son jeune fils et ses parents âgés qui, eux, ont quitté le Tibet 10 ans avant sa naissance. Elle est née au Québec. Et la petite famille est très intéressante parce qu'elle vit selon les traditions bouddhistes. Okay. Et pour ce personnage-là, Rinzen, c'est pas toujours facile d'allier sa vie à l'intérieur avec sa famille, qui est très, très, selon les traditions, on médite, la bonté et tout ça. Et la vie extérieure nord-américaine, où c'est rapide, c'est vif et tout ça. Par contre, l'héritage de ses parents lui procure un calme et une intuition qui sont de grandes forces pour son travail d'enquêteuse. D'autre part, il y a son collègue, Luc Paradis, qui est aux antipodes un peu. Alors, c'est un homme qui vit seul, qui a une vie sentimentale qui est aride, mais comme le désert, totalement. C'est un insomniaque et il passe ses nuits à s'entraîner dans une salle de boxe ou à faire des rencontres intimes. C'est un homme qui est vif, qui est prompt à réagir et parfois ça crée certaines tensions avec sa collègue parce qu'il voudrait qu'elle réagisse plus rapidement. Donc, dans les enquêtes, là, on trouve un beau duo qui vont se compléter. C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ça.
Parce que lui, c'est pas vraiment un spirituel, je veux dire, dans le sens
non,
de mystique, quoi. Hein? Non, c'est
Mais
ça.
Pas du tout.
En
fait, c'est l'inverse.
D'accord.
Parce qu'on le lira, lui, le lecteur pourra l'entendre. Il a eu certains événements dans son enfance, mm-hmm, qui font que la religion, notamment, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, mm-hmm, mais plutôt le contraire.
D'accord.
Donc,
ça le rebute.
Oui, ça le rebute énormément. Mm-hmm. L'histoire, pauvre Luc, ça commence mal pour lui, parce que à Montréal, on retrouve le corps du frère défroqué, Samuel Clément. Il est mort dans son appartement. Il a été pendu les bras en croix.
Mm-hmm.
Donc, déjà là, le fameux Luc Paradis est déjà en réaction intérieure. Et il n'y a presque pas d'indices sur place.
Mm-hmm.
Donc, l'enquête s'annonce ardue.
Mm-hmm.
Mais en plus, ça se complique alors qu'il trouve un torse dans les eaux glaciales du Saint-Laurent. Puis, un petit peu plus tard, pratiquement en même temps, le corps d'un homme noir, gay, qui est accroché à un arbre.
Mmh.
Alors, les deux coéquipiers sont appelés à enquêter sur les morts.
Mmh.
Et rien ne semble, à prime abord, lier ces hommes-là ensemble. Pendant, certains éléments étranges suggèrent qu'il y a peut-être un petit lien entre les
deux. Bon, alors, on n'en dira peut-être pas plus, mais je trouve ça fantastique. Vous nous avez amené dans ce bouquin, Yannick. Vous savez que faites attention, parce que si vous êtes bonne comme ça, on va avoir du mal à se passer de vous, nous. Hein?
Ça va me faire plaisir, ça.
Alors, je voudrais que nous rappelions le titre. Alors, c'est Rinzen, R-I-N-Z-E-N, c'est une femme, et L'homme perdu, de Johan Seymour, S-E-Y-M-O-U-R. C'est une nouveauté au SQLA, c'est sorti depuis peu de temps et c'est disponible. Merci, Yannick.
Merci à vous.
Et au plaisir de vous réentendre très vite. On s'appelle.
Oui, oui. On se rappelle.
D'accord. Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée.
Changement de décor complètement. La semaine prochaine, c'est mon camarade et collègue recherchiste Martin Forgue qui m'a mis ce livre entre les mains, là, celui que j'ai et que je voilà comme ça que je. Ce sont les pages que vous entendez. Ça s'appelle Jihad.ca, loup solitaire, cellule dormante et combattant. Vous l'aurez compris, on va tomber dans une véritable enquête pour essayer de comprendre. Comment des dizaines de Canadiens, dont plusieurs jeunes Québécois, comment ont-ils pu emprunter cette allée simple vers l'enfer djihadiste? Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Alors, ce sont des journalistes chevronnés, hein, Fabrice de Pierrebourg, que je vais recevoir. Il a été appuyé dans cette aventure-là par Vincent Larouche. Ils ont mené leur enquête sur le terrain au Canada et à l'étranger jusqu'aux portes de l'État islamique. Ça a été écrit à partir de témoignages, de confessions et de rencontres avec des personnages clés. Ce livre, Jihad.ca, c'est avant tout un récit haletant, peut-on lire en quatrième de couve, dans lequel les auteurs révèlent de nouveaux éléments dans plusieurs dossiers chauds. À travers le destin parfois tragique de quelques individus, Jihad.ca explore aussi l'évolution depuis plus de 20 ans. De la radicalisation au Canada et de la menace terroriste intérieure. On nous dit que c'est un livre qui se lit comme un thriller et qui nous aide à mieux comprendre cette réalité choc du 21e siècle. Alors voilà pour Jihad.ca et pour Fabrice de Pierrebourg que je vais donc recevoir la semaine prochaine. J'ai donc, autrement dit, une petite semaine pour lire cet autre livre-là et pour venir vous le présenter. Et puis, quelle serait cette émission? Je voulais dire, ne serait pas cette émission s'il n'y avait pas plusieurs titres à vous lancer comme ça en rafale, parce qu'on ne peut pas s'étendre énormément sur autant de titres qu'on voudrait le faire. Alors, en rafale, j'ai pour vous « Trois jours et une vie » de Pierre Lemaître, celui, oui, oui, à qui l'on doit au revoir là-haut. Pierre Lemaître, nous sommes à la fin de décembre 1999. Une surprenante série d'événements tragiques s'abat sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition d'un petit garçon qui s'appelle Rémi Desmet. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée par bien des habitants comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Alors pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commence par la mort d'un chien. Quelques extraits de critiques dans Bibliops, on pouvait lire « Lemaître réussit un roman d'atmosphère dans lequel la fureur des éléments accompagne le cataclysme psychologique subi par son personnage. » Et dans la presse, le 6 mai 2016, on pouvait lire avec Pierre Lemaître « Pas de mélodrame moralisateur, on est vite plongé dans un roman noir, émaillé d'humour noir, joyeusement amoral. » Je vous redonne le titre. Trois jours et une vie de Pierre Lemaître. Saint-Icite du bout du monde. J'adore ce titre. C'est signé Catherine Parent. Saint-Icite est un petit village au bout du monde où vivent des personnages hauts en couleur et parfois un peu étranges. Parmi eux, il y a Yvan de Toute, qui gère le magasin général. Il y a le vieux paléolithique, le doyen du village. Il y a Laura Tatouille, la cuisinière, et Alexandrin, le jeune poète amoureux. Alors, dans ce hameau où les choses ont toujours été les mêmes, l'arrivée d'une étrangère vient bouleverser le quotidien. C'est que personne n'est jamais venu d'ailleurs pour s'installer à Saint-Icite. On ignorait même qu'il existait un ailleurs, imaginez. Alors, lorsque la vieille bergère débarque avec ses 100 chèvres et élit domicile sur la petite butte qui surplombe le village, il n'y a pas un habitant qui voit l'événement d'un bon œil. Pourtant, la bohémienne ne demande qu'à les aider. C'est une puissante allégorie, nous dit-on, contre l'ostracisme et l'intolérance. Saint-Icite du bout du monde qui revisite les contes d'autrefois pour peindre un tableau unique et amusant. C'est rempli d'humour, c'est rempli de poésie. Saint-Icite, c'est partout et c'est nulle part à la fois. C'est un village, une ville, un quartier, une école, bref. C'est là où la différence a parfois du mal à se tailler une place, évidemment. Ça nous rappelle bien des choses et c'est signé, je vous le rappelle, Catherine Parent.
La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson.
Touchante, Jane Birkin, La vie ne vaut d'être vécue sans amour, un extrait bien sûr de la javanaise, chanson qui a fait l'un des grands succès de Serge Gainsbourg, son compagnon et papa de ses filles si longtemps. Jane Birkin, les années passent et Jane Birkin reste une icône, tour à tour scandaleuse à ses débuts sur grand écran dans Blow Up d'Antonioni, puis murmurante en muse de Gainsbourg, dont elle demeurera l'héritière et la meilleure interprète d'ailleurs, cette ex-fan des 60s. A su se faire une place dans le cœur des Français. C'est à partir de 1968 et sa rencontre avec Gainsbourg, qui se remet à ce moment-là difficilement de sa rupture avec Bébé, qu'elle connaît donc Brigitte Bardot, qu'elle connaît la consécration en France. Tous deux forment alors le couple bohème post-68art du Paris germano... germano quoi ? Non, j'aime pas ce terme-là en tout cas. Du Paris de Saint-Germain-des-Prés, par exemple. Voilà, disons ça comme ça. Elle joue dans la piscine de Jacques Deray aux côtés d'Alain Delon et de Romy Schneider. Elle chante avec Serge « Je t'aime moi non plus ». Elle trace ainsi son chemin avec sa légèreté, sa fantaisie « so British », enchaînant dans les années 80 des collaborations au cinéma avec des réalisateurs tels que Jacques Doyon, qui deviendra son futur époux, ou encore Jacques Rivette, ou au théâtre avec Patrice Chéreau. Après la disparition de Serge, comme elle dit, en 91, à qui elle ne cessera de rendre hommage, Jen B reste sur le devant de la scène pour la musique comme pour les combats qu'elle mène à travers le monde, avec cette flamme qui, malgré les épreuves, ne s'est jamais éteinte. Si vous aimez, si vous êtes touché par le personnage, sachez que la vie ne vaut d'être vécue sans amour. C'est le titre d'une biographie signée Frédéric Quinonero, Q-U-I-N-O-N-E-R-O. Changement de décor complètement, Moura, la mémoire incendiée d'Alexandra Lapierre. Ça, c'est pour les amoureux d'histoire et d'histoire vraie. Adorée par ceux qu'elle aima, honnie par ceux qui la jugèrent insaisissable, Moura a bien existé. Dans les tourments de la révolution bolchévique, d'une guerre à l'autre, Moura a traversé mille mondes. Aristocrate d'origine russe, elle s'est appelée Maria Zakrevskaya, elle s'est appelée Madame Beckendorf, elle s'est appelée la Baronne Bodberg, elle a été la passion d'un agent secret britannique, la muse de Maxime Gorky, la compagne de H.G. Wells et l'égérie de l'intelligentsia londonienne. Imaginez cette histoire donc de Moura, la mémoire incendiée d'Alexandra Lapierre. Alors voilà, ainsi s'achève l'émission des livres plein les oreilles que j'ai eu une fois de plus beaucoup de plaisir à animer pour vous. Je voudrais remercier mes invités du jour, Sienna Tregiani, Yannick Olassa et Daniel Grenier, qui, je vous le rappelle, a signé L'année la plus longue, que je ne saurais que trop vous recommander. D'ailleurs, tous les livres dont il a été question aujourd'hui, je vous les recommande. Merci beaucoup à Martin Forgue à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté en régie. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et qui vous dit à la semaine prochaine.